Bonjour Jean Varela.
Bonjour.
Alors, dans quel état d'esprit êtes-vous à une semaine du lancement du Printemps des comédiens ?
Un état d'esprit très joyeux, nous allons pouvoir enfin tenir un festival après l'annulation de 2020.
Alors c'est une édition vraiment qui a été très très compliquée à faire, plusieurs fois remaniée. Je pense qu'à un moment donné, vous vous êtes demandé si vous alliez arriver à sortir un festival, quoi. C'était vraiment rocambolesque.
Oui, c'est une édition qui est née dans la difficulté, mais nous avions un postulat de base qui était de tenir un rendez-vous en 2021, quoi qu'il arrive, afin que le domaine d'eau soit ce que j'ai appelé le jardin des retrouvailles. Il nous semblait impossible, à tout point de vue, que rien n'existe en 2021 après l'annulation de 2020.
Alors, il était chargé d'espoir, et puis parce que voilà, il venait après une édition annulée, et malheureusement aussi de déception et de choix sans doute assez cruels, puisqu'il est présenté de manière allégée, enfin réduite, quoi. Hein.
Oui, même si c'est le lot de tout festival, car ouais. Nous travaillons toujours dans la frustration de ne pas pouvoir montrer tout ce qu'on désirerait montrer. Mmh. Une programmation, ça se fabrique dans l'enlèvement de peaux successives, parce qu'à un moment donné, des réalités techniques, économiques, de disponibilité d'artistes font que on réduit nos ambitions. Et on essaie de faire en sorte que notre ambition première soit toujours la plus préservée possible. Mais c'est le lot de tous les hivers, et la vérité du mois de juin à l'issue d'un festival n'est pas la vérité de septembre, qui n'est pas la vérité de janvier. Donc ce sont des pots qui distractent, que nous enlevons ou que nous rajoutons au fur et à mesure de l'évolution des projets avec les artistes, de nos réflexions et des moyens qu'on peut consacrer à l'édition suivante.
Alors justement, comment arriver à maintenir une idée, un axe, quand tout doit être en permanence bougé, raboté, enfin, etc. Comment arriver à tenir une idée, une intention ?
Je crois que la force du printemps, c'est qu'il est bâti sur une fondation très solide, qui est que cette maison est un lieu de création pour le théâtre d'art. Et que tout ce que nous imaginons, tout ce que nous impulsons, part de cette source-là. L'exigence du théâtre d'art à faire partager au plus grand nombre. Et la fidélité avec les artistes, la fidélité avec des spectateurs, la fidélité avec une équipe. Et à partir du moment où cette source est solide, où elle est affirmée d'année en année, nous arrivons avec l'agilité d'une compagnie, car nous travaillons comme une compagnie ici et pas comme une lourde structure, nous arrivons, me semble-t-il, à trouver des solutions, alors plus ou moins heureuses, plus ou moins justes, mais à maintenir ce cap qui est notre postulat de base.
Alors, il y a eu concrètement un report au 10 juin, c'est ça ?
Au 10 juin.
Évidemment, c'est lié au fait qu'à partir de cette date, on peut avoir des jauges un peu plus importantes et rentrer chez soi un peu plus tard, puisque le couvre-feu sera de 23 heures. Ça a été un critère important.
Le festival devait débuter le 28 mai. Il est reporté au 10 juin. Le début est reporté au 10 juin. Les conditions que vous venez d'exprimer ne sont pas les seules raisons de ce report. C'est qu'à un moment donné, dans le travail, dans les incertitudes que nous traversions au creux de l'hiver et jusqu'au mois d'avril, à un moment donné, il nous est apparu impossible de maintenir le festival en ouverture le 28 mai. parce que le travail de médiation avec les spectateurs n'avait pas pu être mis en œuvre, que certains projets artistiques avaient été à l'arrêt, que d'autres festivals partenaires avaient décidé de reporter leur programmation en septembre, et que donc toute l'économie, tout l'écosystème qui fondait notre travail était fragilisé, et qu'il était du coup d'une part très très risqué, très très périlleux pour l'avenir de la structure de maintenir cette date au 28 mai, et que d'autre part, et ça vous avez raison de souligner la question des jauges, le coût du fauteuil par spectateur devenait trop élevé, quasiment insoutenable.
À 35%,
à 35% d'un point de vue économique et d'un point de vue politique. Jouer un spectacle de Christian Loupa ou de Christophe Warlikowski devant 180 spectateurs, ça n'a aucun sens dans le travail de démocratisation artistique qu'on essaie de mener, et ça a un coût économique qui n'est pas entendable, alors que l'ensemble de la profession est en souffrance. Donc l'ensemble de ces critères et d'autres que j'oublie aujourd'hui m'ont poussé à proposer au conseil d'administration trois alternatives. Une qui était l'annulation pure et simple, en disant au conseil d'administration que ça me semblait pas du tout tenable et très dangereux pour la suite. La deuxième était la tenue du festival tel qu'il était prévu, avec les risques que je viens d'exposer. Et la troisième qui était une voie médiane que nous avons finalement mis en œuvre, qui est ce festival qui débute le 10 juin.
D'accord. Alors, j'ai noté que l'ennemi du peuple, mise en scène par Jean-François Sibalier, démarrait à 22h. Alors, comment on fait pour rentrer si on doit rentrer à 23h pour rentrer chez soi ?
Vous avez aussi noté que dans le programme initial, ce spectacle n'était pas prévu.
D'accord.
Et que nous l'avons rajouté au moment de la refonte. Parce que c'est pour vous montrer un peu les incertitudes dans lesquelles nous étions. Quand nous avons travaillé, que nous étions en échange avec le ministère, à un moment donné, il n'y a pas si longtemps que cela, on ne savait pas si les théâtres fermés pourraient être utilisés. Et donc, on nous a conseillé de promouvoir des spectacles à l'extérieur. Et très peu de spectacles aujourd'hui de théâtre peuvent jouer en extérieur. On a discuté avec Cyril Test l'idée de mettre la mouette à l'amphithéâtre, ça n'était pas possible, le spectacle aurait été trop abîmé, même chose avec Christophe Warlikowski, et donc comme nous étions depuis longtemps en discussion avec Jean-François et que je savais sa volonté de recréer le spectacle pour l'extérieur, nous l'avons rajouté. Sur la question de l'horaire, nous sommes aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, dans une impasse. Parce que je pensais obtenir de monsieur le préfet de l'Hérault une dérogation pour que les spectateurs puissent rentrer chez eux avec le billet. Et pour l'instant, je ne l'ai pas obtenu. Je pensais l'obtenir, pourquoi ? Parce que mon camarade Jean-Robert Charrier, qui dirige le festival d'Anjou, au mois de juin, a obtenu, lui, sur toute la durée du mois de juin, l'autorisation de minuit avec ce fameux billet qui permettait aux gens de rentrer chez eux. Donc là, nous sommes dans une impasse. Demain, je vois les services de la préfecture. Et si nous n'avons pas de solution, ce que je pourrais comprendre, je comprends que la situation est difficile à arbitrer pour monsieur le préfet, à ce moment-là, nous déciderons avec Jean-François de jouer beaucoup plus tôt, c'est-à-dire que le spectacle jouera pratiquement sur sa durée, 2h40, avec la lumière naturelle.
D'accord. Alors, il y a beaucoup de talents et des talents évidemment maintenus, mais il y a aussi quelques grands absents. Pourquoi est-ce que Loupa et Warlikowski, question toute bête peut-être, n'ont pas pu être là parce qu'ils sont en Pologne et que tout simplement on ne peut pas voyager à ce moment-là ou...
Alors, pour le spectacle de Christophe Warlikowski, l'Odyssée, il était prévu sur le week-end d'ouverture du 28 mai, et il a été impossible de le déplacer pour des raisons de disponibilité, car l'équipe de Wardykowski doit jouer à Varsovie au mois de juin. Et donc nous avons essayé, les uns et les autres, nous avons essayé de trouver des solutions de calendrier, et nous n'y sommes pas parvenus. Il en va de même pour le spectacle de Julien Gosselin, le Décalogue, qui était sur le premier week-end, et que nous n'avons pas pu déplacer parce que nous sommes tous dans une situation de thrombose, c'est-à-dire que des artistes ou des techniciens du spectacle de Julien Gosselin n'étaient plus disponibles parce qu'ils étaient pris sur des spectacles qui avaient été repoussés au mois de juin.
C'est ça.
Donc, malgré les efforts inouïs que nous avons déployés, impossible de reprogrammer le Décalogue.
Quel
et
casse-tête.
Nous le regrettons. Et pour Lupa, c'est une production d'un théâtre lituanien. D'une part, Lupa a rentré de Chine et donc il est soumis à une quarantaine, donc sa présence là ici était compromise. Et d'autre part, nous avons évalué les risques avec la compagnie lituanienne d'avoir un cluster, de devoir mettre l'équipe en quarantaine et les coûts que ça engendrait, etc., dont nous avons préféré refuser.
D'accord.
Pour ce qui est de Castellucci, puisque c'est un autre grand absent,
oui,
la décision a été plus précoce, étant donné que c'est un spectacle qui devait jouer dans l'espace public. Nous avions choisi de le jouer sur le toit du parking de la gare Saint-Roch. Et ce spectacle fait appel à 40 amateurs. Et au moment où il fallait prendre la décision, nous n'avions pas possibilité, sans risque, de mobiliser 40 Montpelliéraines ou Montpelliérains au risque de les mettre en danger d'un point de vue de leur santé.
D'accord. Alors, il y a deux compagnies internationales, le Chilien Christian Flores et le Coréen Jaaku, qui eux peuvent être là. Alors, j'imagine qu'il y a d'autres paramètres.
Alors, Christian Flores est un spectacle que nous accueillons en partenariat avec le Théâtre de la Vignette, ouais, avec Nicolas Dubourg qui nous l'a proposé. Et Nicolas a décidé de proposer à l'équipe de Christian Flores une quarantaine. Donc ils sont en quarantaine, je crois que c'est une quarantaine de 15 ou 16 jours. Voilà pourquoi ils sont là. Pour le Coréen Jaaku, il vit en Belgique.
D'accord.
Donc la situation est plus claire, plus simple.
Alors, est-ce que c'est faux de dire que, un peu d'ailleurs, comme le Montpellier Danse, finalement, et ça c'est un des aspects positifs, on va se focaliser sur une création nationale, hexagonale, il y aura beaucoup de théâtre français. En tout cas, c'est un des grands metteurs en scène, et que vous avez particulièrement soutenu au printemps, Cyril Teste, qui fait l'ouverture.
Oui, il y a moins d'artistes internationaux. De ce fait, il y a davantage d'artistes français.
Oui, c'est pas un choix, d'accord. Ouais.
Et en effet, c'est Cyril Teste qui va ouvrir l'édition avec, et c'est un signe magnifique, la création, puisque le spectacle n'a jamais été montré de Samoët de Tchekhov. Ils sont d'ailleurs en répétition, je sors de la répétition.
Alors, il y avait eu cette pièce, Nobody, c'est ça, qui
Nobody.
Était marquante, qui l'avait en partie lancée, je me trompe pas, en tout cas, qui avait signalé ce metteur en scène de talent utilisant beaucoup la vidéo. Et parlez-nous un peu de la mouette qui paraît être un des événements de ce printemps. Beaucoup de vidéos, évidemment, là aussi.
Il y a une utilisation toujours très importantes de l'image de l'image en direct, mais il y a une évolution de la présence de l'image dans ce spectacle là c'est pour moi un spectacle de la maturité pour Cyril, car vous le verrez, l'image est totalement partie prenante de la proposition scénique et scénographique. Et elle permet à Cyril de faire pénétrer le spectateur dans des espaces de la maison que la vision en direct n'autorise pas. Et donc on pénètre avec la caméra dans cette maison en profondeur. Et ça peut faire penser à certaines mises en scène du début du XXe siècle, symbolistes, quand les metteurs en scène, Pitoev l'avait fait, quand il avait monté La Mouette, avait commandé une scénographie qui reconstituait totalement l'appartement en totalité, mmh. même si des spectateurs ne voyaient pas. Et d'ailleurs, il y a à l'époque, des stagiaires ou des jeunes acteurs dormaient dans ces appartements de décor, en fait. Mmh. Et là, avec la caméra, avec cet œil, on peut aller dans ces endroits que Pitouef, à son époque, suggérait, mais ne montrait pas aux spectateurs. Donc, vous voyez, il y a une lignée comme ça, quant à la lecture de ces œuvres-là, qui sont des œuvres très importantes dans l'histoire du théâtre. La Mouette, c'est une pièce qui, avec la présence de ce personnage très plève, qui écrit, qui réfléchit sur l'évolution dramaturgique du théâtre, marque une étape. Il y a une filiation de Pitouef à Cyril Test, qui est très belle.
Alors, il y a aussi Jean-François Civadier, qui est un des grands fidèles et qui vient avec Son ennemi du peuple. Je dis Son ennemi du peuple parce que c'est une pièce majeure de Ibsen, un bouc émissaire, la question de l'écologie, etc., qui se pose à travers cette pièce. Ce n'est pas une création. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de cet autre temps fort, de ce compagnon de route?
Alors, c'est une pièce qui a une place à part dans l'œuvre d'Ibsen. D'abord, elle a été souvent considérée par les analystes comme une œuvre non pas majeure, et c'est assez paradoxal, d'Ibsen. C'est une pièce qu'Ibsen écrit après l'échec des Revenants, où il a été censuré, et il décide d'écrire une pièce qui va mêler la tragédie et la farce, avec ce personnage du docteur qui est quasiment un bouffon. Et Ibsen montre là combien le théâtre a la puissance de mêler dans une même œuvre le sublime et le grotesque, comme Shakespeare l'avait montré. Et il me semble que le théâtre généreux, populaire, de troupes, que porte depuis des années Jean-François Civadier, trouve sa mesure dans cette pièce, cette fable, avec Nicolas Bouchaud qui va interpréter le docteur. Et vous avez raison, c'est une pièce qui est d'actualité. Mmh. Elle parle, vous l'avez dit, des problèmes écologiques, mmh. de la pollution de l'eau. Elle parle de la puissance de lobbying de l'économie. Puisque lorsque ce docteur va dire que l'eau de la ville thermale est polluée, il va se trouver en butte avec une majorité d'habitants qui ne veulent pas perdre leurs ressources économiques. Et elle parle aussi de ce qui nécessite beaucoup de courage, c'est-à-dire avoir raison contre tous, mmh. ou affirmer une conviction contre la majorité. Et cette pièce, de ce point de vue-là, est merveilleuse.
Alors, on se remet à parler de théâtre. Ça, c'est vraiment un plaisir d'avoir à nouveau ces conversations. Parce que, bon, on sort d'une période incroyable. Alors, question un peu à 100 balles, mais qu'est-ce que ce sera, que sera le théâtre après ce Covid? On entend beaucoup de choses. Vous avez parlé de la vidéo. Beaucoup, on a été nombreux à regarder. Arthur Nosiciel a fait une proposition dédiée sur Zoom. On a été beaucoup à regarder du théâtre filmé, enfin en streaming, hein, selon le terme. Et vous, quel est votre rapport à ça, à ce substitut visuel qu'a été notre théâtre pendant cette année de confinement?
À titre personnel, j'ai beaucoup de mal à regarder du théâtre en vidéo ou en streaming, même si je le fais pour des raisons professionnelles. Car pour moi, la joie du théâtre, c'est la présence dans la salle, de sentir le genou de mon voisin ou de ma voisine, sa respiration, son cœur qui s'affole, ou son ronronnement quand il s'endort parce qu'il est très bien ou parce qu'elle s'ennuie. Et c'est ce moment de, comme disait Jean Villard, de communication dans la salle. Il ne voulait pas dire communion parce que ça avait une connotation religieuse. Donc, comment la salle communique et comment elle réunit dans l'imaginaire du théâtre public le chauffeur de taxi et le grand magistrat. Et donc, c'est un être ensemble pour un moment unique qui est une représentation, car vous le savez, toutes les représentations sont différentes. Et je pense que il n'y a pas plus circuit court que le théâtre. Mmh. Vous êtes là, les artistes sont là. Mmh. Calderon disait un tréteau, une chaise, un tabouret, des acteurs, un texte, et la représentation peut se donner. Donc, pour moi, c'est ça l'acte théâtral, la cérémonie théâtrale.
Alors justement, on revient au vivant, mais dans quel état se trouve le théâtre ? Vous êtes évidemment aux avant-postes. Comment sont les artistes ? Est-ce que le théâtre va être impacté ? Ce sont des questions évidemment complexes. Qu'est-ce qui va changer là au moment où on parle ? Est-ce qu'on verra peut-être des choses au festival, de ces mutations sourdes produites pendant le Covid ?
J'ai l'impression qu'il y a une lassitude des artistes, que ces temps sans représentation a été éreintant, épuisant, qu'il y a une fatigue morale, et que il faut du temps pour se remettre, un sportif dirait, en jambes, pour se remettre au niveau physique et au niveau collectif, car le théâtre est un art du collectif, et on a besoin de se relancer et de regarder vers les projets, car nos métiers sont des métiers de projet, des métiers où on pense toujours à ce qu'on fera demain. Et là, j'ai l'impression que les artistes, les techniciens, les directeurs de théâtre ont été un peu arrêtés dans ce mouvement perpétuel. Alors, ça n'a pas eu que des défauts, parce que ça a aussi permis de réfléchir, de lire, d'imaginer. Mais ces arrêts suivis de redépart, suivis d'arrêts, ont un peu coupé les jambes. Et je sens bien, j'en ai longuement parlé avec Cyril Test depuis plusieurs semaines, qu'il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté pour remettre ce qu'on appelle facilement la machine en action.
Alors, sans compter le désastre économique pour une grande partie du secteur, ça vous donne une responsabilité à vous supérieure, puisque le secteur du théâtre est particulièrement impacté, non ?
Alors, il faut souligner que depuis 2020, nous avons été très très soutenus par l'État et les collectivités. Toutes les mesures spécifiques ou transversales mises en place par l'État, le soutien des collectivités, permettent à nos maisons, d'une part, de passer l'obstacle, et d'autre part, nous, en 2020, nous avons pu accompagner au mieux de nos forces les artistes qui étaient programmés en 2020, qui ont été annulés, les techniciens qui devaient travailler avec nous, et nos prestataires. Et je dois dire aussi que nos partenaires privés ont marqué, alors qu'ils étaient eux aussi dans une difficulté économique, ont marqué leur solidarité et leur compréhension de l'importance de nos maisons dans la vie de la cité. Il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup d'incertitudes, notamment chez les jeunes artistes, car ils n'arrivent pas, ou plus difficilement, parce que c'est toujours difficile, à rentrer dans le métier, à commencer à travailler. Et là, nous avons une grande responsabilité que nous avons évaluer, et c'est pour ce faire que nous avons mis en place Campus, qui marque encore un peu plus notre volonté d'accompagner l'écosystème théâtral du territoire, en accompagnant les professionnels dans le cadre de leur formation permanente.
Donc des cours de théâtre.
Des ateliers, des masterclass, une académie de théâtre. Et nous lançons ça, et pour nous, ce n'est pas anecdotique, c'est une réflexion que nous menons depuis des années au printemps, avec le partenariat très très serré que nous avons avec l'École nationale supérieure d'art dramatique. Mmh. Chaque année, nous accompagnons les productions, depuis Ariel Garcia Valdez. Nous accompagnons des équipes qui sont installées sur la région et qui sont souvent issues de cette école, nous accompagnons en production, nous accompagnons en diffusion. Je me souviens, il y a 2 ans, d'une soirée où dans l'amphithéâtre, il y avait Machine Théâtre avec le Dostoïevski et en même temps, dans le théâtre Jean-Claude Carrière, Katia Ferreira qui présentait First Trip. Donc il y a cette volonté de soutenir cet écosystème pour faire de Montpellier et de son territoire un lieu repéré de l'émergence, de la création et de la diffusion. Et dans ce travail-là, il y a 2 ans, nous avons initié Warm Up, qui est ce tour de chauffe où on permet à des équipes de bénéficier de la visibilité du festival, de la présence de programmateurs pour montrer des chantiers qui, certains, deviendront des spectacles. Ça a été le cas pour First Trip de Katia Ferreira, qui a d'abord été un chantier que des professionnels ont vu et qu'ils ont décidé d'accompagner. Donc, mettre le pied à l'étrier de la formation initiale, l'École nationale supérieure, et au-delà, puisque le printemps des collégiens, qui est un travail que nous menons avec le CNRS, le département, dans plusieurs collèges de Montpellier, où des gamins travaillent avec des artistes professionnels sur théâtre et citoyenneté, sont invités au festival à présenter leurs travaux, à découvrir les métiers du spectacle. Et je pense que dans ces jeunes gens, jeunes filles et jeunes garçons, il y a nos successeurs qui découvrent ici le théâtre, l'art, le sensible peuvent être des lieux d'émancipation, d'épanouissement personnel et professionnel. Car je crois que l'argent public qui est consacré à nos maisons n'a de sens que si, sur le temps long, puisque nous travaillons sur l'humain, il permet à la cité de voir ses enfants se développer et créer eux-mêmes ensuite de la richesse.
Alors, du côté du Syndéac, dans les réflexions qui ont été menées, j'ai cru comprendre que on imaginait que le théâtre à venir serait peut-être re-territorialisé, c'est-à-dire qu'on voyagerait moins. Et que du coup, l'ancrage territorial, c'est un sujet qui va être peut-être plus que jamais d'actualité. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle
Mais
actuellement?
Que l'on voyage ou que l'on ne voyage pas, l'ancrage territorial est fondateur. Lorsque j'étais à l'école et que j'ai eu l'école d'art dramatique, que j'ai eu la chance d'avoir comme professeur Gabriel Monet, dont on fête cette année le centenaire de la naissance et qui a été un des chantres de la décentralisation, il nous disait « Vous pouvez faire du théâtre d'art partout où vous vous trouvez, dans votre village, dans votre ville, à la condition que vous ayez une exigence artistique très grande » et que vous soyez implanté dans votre ville, dans votre quartier, comme l'est le boulanger ou le boucher. Et que de cette implantation, vous arriviez à créer la curiosité. Et Peter Brook ne dit pas autre chose. Lorsqu'ils ont ouvert avec Jean-Claude Carrière le Théâtre des Bouffes du Nord à Paris, qu'ont-ils dit? Ils ont dit, on a commencé à parler aux gens de la rue, puis du quartier, puis de l'arrondissement, puis de la ville, puis du pays, puis du monde. Connais ton village, tu connaîtras le monde, a écrit Tchekhov. Eh bien, le théâtre est un art de l'enracinement, mais ouvert aux quatre vents.
Alors, avec une programmation évidemment internationale, qui vous fait comparer souvent à Avignon, ça c'est une comparaison récurrente, pour aussi vous demander quelles sont vos différences, est-ce que la différence entre Avignon et le Printemps des Comédiens, c'est pas justement cet ancrage territorial, parce que vous avez de grands artistes internationaux qui souvent se retrouvent dans vos deux programmations?
Il n'y a pas de différence fondamentale entre Avignon et nous, sauf que Avignon est un très grand festival, et comparaison n'est pas raison. Quand je dis qu'il n'y a pas de différence, c'est que nous sommes issus de la même source. Quelle est-elle ? Elle est la source de la volonté politique. Nous sommes des maisons qui n'existent que parce qu'il y a une volonté politique. Il ne faut pas l'oublier. Nous sommes à la fois solides et fragiles. Le jour où cette volonté politique d'investir dans le théâtre d'art, dans la création, ou dans la danse pour notre camarade Jean-Paul Montanari, ou pour d'autres maisons, disparaît, nos maisons s'effondrent. Avignon, c'est le signal de la reconstruction du pays en 1947. de la reconstruction après cet effroyable épisode de la Deuxième Guerre mondiale par le sensible. Mmh. C'est un peu ce qu'avaient fait les conventionnels en 1795, lorsqu'ils décident à la fois de créer les départements et de créer, de développer les conservatoires de musique et d'art dramatique sur l'ensemble du pays. Ils ne décident pas, les conventionnels, de créer l'école publique d'abord. Ils décident de créer des maisons, des écoles d'art dramatique, de musique. Parce que peut-être ont-ils pensé qu'après l'épisode de la terreur, après l'épisode de la guerre civile, le sensible, l'art, la beauté, pouvaient constituer les ferments d'une communauté nationale qui allait se réconcilier. 1947, Avignon, c'est la reconstruction. 1987, la création du Printemps des comédiens, c'est le résultat des lois Mitterrand de fin qui consacrent la décentralisation, qui donnent aux territoires la possibilité de prendre en main leur destinée dans des domaines qui étaient alors gérés de façon verticale jacobine. Et finalement, ce que vous décriviez il y a un instant, la présence des artistes qui sont sur le territoire, qui ont été formés à l'école, c'est le résultat 30 ans après ou 40 ans après de cette volonté politique. La formation des gens par le conservatoire, par l'école, l'équipement de lieux, le domaine d'eau, qui aurait pu devenir autre chose qu'un lieu dédié aux arts vivants, l'accompagnement des artistes par les collectivités, des compagnies, par l'État, fait que, peu à peu, naît un écosystème qui va se régénérer et qui va lui-même entraîner un enrichissement de la cité et du territoire. Et aujourd'hui, quand on regarde de loin Avignon, Arles, Aix-en-Provence, Montpellier, entre les mois de juin et d'août, nous avons ce qui se fait de plus beau, de plus fort, de plus audacieux en matière de danse, d'art lyrique, de théâtre, de photographie dans le monde. C'est un moyen d'émancipation et de développement humain considérable, inestimable, et qu'il faut préserver et développer.
Alors la reconstruction par le sensible, elle vaut aussi pour cette période post-pandémique, enfin on l'espère, hein, qui s'ouvre. À votre avis, vous n'allez pas me dire non, évidemment, mais le rôle du théâtre actuellement, maintenant après le Covid, est-ce que ça va être cette reconstruction par le sensible ?
Le rôle du théâtre, pour moi, c'est de donner du sens, de donner à réfléchir par le divertissement, au sens brechtien. Le plus grand divertissement pour l'homme, c'est la pensée. Et il me semble que dans ces temps de pessimisme, ces temps où le repli tend à tous nous emporter, à nous faire oublier le privilège que nous avons de vivre dans une république sociale, ouverte, dans un pays privilégié, où les paysages sont merveilleux, où les jeunes gens sont certainement plus ouverts au monde que nous l'étions à leur âge. Le théâtre, c'est cet outil-là merveilleux. Et le théâtre, comme les musées, comme l'ensemble des arts, participe, mais comme la gastronomie participe, comme tous ceux qui finalement nous réunissent et nous permet ensemble, soit autour d'une scène, soit autour d'une table, soit autour d'un verre, de débattre et de faire agora.
Alors, il y a une inconnue, mais c'est un élément. Il y a un élément de réponse dans les quelques rares spectacles qui ont démarré, c'est le public. Là, je suppose qu'il va répondre présent. Il paraît qu'il y a dans le public là une ferveur, un appétit particulier de spectacle. Les gens sont heureux, très heureux d'être là et qu'ils le manifestent. Il y a de fortes chances que cet appétit-là, on le sente au printemps, qui est déjà constitué par un public très concerné, très fidèle.
Il y a quelque chose que nous n'avions pas soupçonné, c'est la reconnaissance des spectateurs et des spectatrices au fait qu'on ait réussi à maintenir le festival. Alors ça, j'avais pas du tout pensé que les spectatrices et les spectateurs nous remercient de ça. Finalement, c'est notre métier de faire et de maintenir. Et là, ça m'a beaucoup touché parce que c'est une reconnaissance à l'endroit de l'ensemble de l'équipe du printemps qui a agi. Et c'est aussi le signe que ces politiques publiques dont on parle et ces découvertes que nous avons eues ensemble avec les spectateurs de tous ces artistes constituent une communauté humaine attentive, curieuse, ouverte et disponible.
Alors ils seront 15 000 au lieu de 45 000 habituellement, c'est pas rien, hein, c'est beaucoup moins.
C'est beaucoup moins, mais nous les retrouverons l'an prochain.
Pour finir, il y a un hommage à Jean-Claude Carrière qui est le président, qui était le président du Printemps des Comédiens. Un hommage joyeux par un compagnon de route, Peter Brook, qui donnera, je crois, aussi des masterclass.
Oui.
Il manque, je suppose, mais il manque comment et qu'est-ce qu'il a apporté, Jean-Claude Carrière, au Printemps des Comédiens?
Jean-Claude Carrière était là à mon arrivée. Il était déjà président du temps de Daniel Bedos. C'est Madeleine Attal qui l'avait amené au Printemps des Comédiens. Et je voulais aussi rendre hommage à Madeleine Attal qui est chez elle, pas très loin d'ici. D'abord, Jean-Claude Carrière, lorsque j'ai été nommé, m'a accueilli de façon tout à fait amicale et ça m'a donné beaucoup de confiance, car j'étais, je ne vous le cache pas, très impressionné à l'idée d'aller le rencontrer, de discuter avec lui. Et il a eu, ce qui est certainement sa marque, une très très grande humanité, une très grande écoute, attention. On ne mesure pas ce que Jean-Claude Carrière a apporté au festival, car c'est immense, c'est considérable. Lorsque vous avez affaire à un homme de cette dimension, et d'ailleurs j'ai mesuré dans l'Hérault combien au moment de son décès, combien les gens n'étaient pas toujours conscients de ce qu'était Jean-Claude Carrière. Et je me souviens, le jour de ses obsèques à Colombie, où nous étions très peu nombreux, à l'issue de la représentation, des obsèques, des gens sont venus, c'était un lapsus, parce que ces obsèques étaient un moment merveilleux.
Ah oui.
De simplicité, de beauté, dans cette petite, c'était une cérémonie civile, mais dans l'église de Colombières-sur-Orme.
Louis Garrel était là, je crois.
Pardon?
Louis Garrel était là.
Carole Bouquet,
aussi,
Atik Raimi, oui. François Martouret et d'autres amis. Et l'église, c'était au mois de février, avait été décoré de mimosa du Carouc. C'était un moment merveilleux, très très beau. Et à l'issue, des gens du village attendaient et je vais parler avec eux. Et les gens, tout d'un coup, par la presse, se sont rendus compte que Jean-Claude Carrière était une personnalité immense. Mmh. Dont la filmographie est inimaginable, et puis tellement diverse, de Buñuel jusqu'à Cyrano de Bergerac, de La Piscine jusqu'à Martin Guerre, enfin bon, c'est quelque chose d'inouï. Et ce qui est très beau, et qui raconte un peu et qui peut résumer tout ce qu'on a dit lors de cet entretien, c'est ce que Jean-Claude disait de sa vie. Il est né à Colombières dans une famille de paysans, dans une maison où il n'y avait ni livres, ni images. Et grâce à la République, il va vivre du livre et de l'image. Mmh. Et ça, c'est merveilleux, parce que ça donne l'espérance pour ces temps troubles et ces temps où le danger du repli nous mine. Soyez confiants dans ce que notre pays et notre corps social peut nous amener.
Très bien, on va terminer sur ces jolis mots. Merci Jean Varela et bon festival.
Merci.